travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Avant le début de la corrida, nous allons demander à Pablo Picasso de nous dire pourquoi il y a eu une corrida organisée à Valoris et pourquoi il a eu cette idée.
Parce que je trouve que la joie, la paix et l'amitié de tout le monde, c'est la chose la plus précieuse du monde.
Est-ce qu'en Espagne, vous assistiez étant enfant à des corridas?
Ben, depuis l'âge de Jésus.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Du sang, de la volupté et de la mort. Le titre du livre célèbre de Maurice Barrès, paru au tournant du 19e et du 20e siècle, ouvrage d'un voyageur fasciné en particulier par les rudes paysages espagnols, ce titre pourrait servir, me semble-t-il, d'intitulé pour notre émission de ce matin. Nous allons en effet y parler de la tauromachie. Et il n'est guère de spectacle qui mêle de si près ces trois composantes, propres à susciter toutes les passions. Et Dieu sait que les passions se bousculent autour de la corrida, qui voit s'affronter sans répit et de très longue date les aficionados qui y célèbrent, dans la continuité d'une longue tradition méridionale, une certaine beauté de la violence maîtrisée par des rituels lumineux, et d'autre part celle des défenseurs des animaux qu'indignent les souffrances infligées aux taureaux au service de plaisir, dénoncés comme cruels et en somme barbares. Il n'est guère de saison qui nous voit ressurgir ce face-à-face et celle que nous traversons ne fait pas exception. L'opération lancée le 11 juin dernier l'a bien montré, une opération dénommée « Enveloppes rouges et blanches » à l'Élysée, et consistant à exiger du nouveau président de la République la suppression de l'alinéa 7 de l'article 521.1 du Code pénal, article autorisant les corridas dans certaines régions de France lorsque peut être invoquée, je cite, « une tradition locale ininterrompue ». L'histoire au service d'une spécificité régionale de cette dimension dans notre République jacobine, voilà bien qui est fait pour stimuler notre curiosité. Et afin de la satisfaire, du côté du sang, de la volupté et de la mort, rien de mieux que de faire fond sur la science d'Éric Baratet, professeur à l'Université de Lyon, spécialiste de l'histoire des relations qu'ont entretenues au long des âges les hommes et les animaux.
Je suis taureau de combat, comme grand-père et comme papa, qui sont tombés dans l'arène, ça excite les sirènes du premier rang, qui mouillent leurs petits slips tout blancs, qui font une drôle de bobine devant notre hémoglobine. Manolette, Manolette, grand héros, on te fera ta fête, on te fera la peau. Un de ces jours, pas prends garde, un matador, ça se lézarde, parfois plus vite qu'un taureau. On est taureau de combat, mais des combats, il y en a pas. Il n'y a qu'un génocide pour nous, Dachau, c'est Madrid. Notre signe, c'est pas l'étoile, mais tous les sanglants pétales que nous plantent dans le corps les lances des picadors. Manolette, Manolette, grand héros, on fera ta fête, te fera la peau. Un de ces jours, apprends garde, un matador, ça se lézarde, parfois plus vite qu'un taureau. Je suis taureau de combat. J'avais un oncle à Huesca, il levait les cornes aux cieux, paraît qu'il était vicieux. J'avais un cousin lointain, il est mort dans le crottin, des chevaux apprivoisés, des collabos équidés. Manolette, Manolette, grand héros, on te fera ta fête, te fera la peau. Un de ces jours, hop, prends garde, un matador, ça se lézarde, parfois plus vite qu'un taureau. Je suis taureau de combat, j'observe et ne bouge pas. Et la chaleur est épaisse, ce dimanche à Linares. Il avance, il tend la cape, je dérobe et puis j'attaque. Sens-tu ma corne qui fouaille bien profond dans ta tripaille? Manolette, Manolette, sur le dos, les sirènes crachent sur ta peau. L'Espagne debout nous regarde, un pays ça se lézarde, toujours plus vite qu'un taureau.
Éric Baratet, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre la chanson Manolette de Henri Tachant, une chanson qui remonte à 1979, mais fait allusion à la mort de ce grand torero qui était Manolette en 1947. Je n'ai pas choisi de l'eau tiède pour commencer. Voilà le texte de la chanson d'un pourfendeur de la tauromachie qui nous conduit tout droit au cœur des débats passionnés qui entourent cette pratique.
Oui, c'est une très forte chanson que je ne connaissais pas, mais qui est très belle, qui raconte notamment le taureau dont il parle, c'est Islero, c'est le taureau le plus célèbre de l'histoire de la corrida.
Pourquoi ?
Parce que c'est lui qui a tué Manolette, qui est l'un des toreros les plus célèbres de l'histoire de la corrida. Alors ce qui est très drôle, enfin intéressant dans cette chanson, c'est qu'il reprend, Henri Tachant reprend l'idée que Islero était un taureau fort, rustique, agressif, etc. Alors qu'en fait ce n'était pas du tout le cas. Islero c'était un petit taureau qui n'avait pas du tout envie de combattre. L'équipe de Manolette a eu beaucoup de mal à le faire combattre, en grande partie parce qu'il avait eu les cornes coupées, les cornes affeitées, comme on dit, limées, coupées à la scie, puis limées pour l'empêcher d'être trop dangereux, ce qui était une pratique tout à fait courante à l'époque. Et c'est un taureau presbyte, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas lorsqu'il le chargeait, et lorsqu'il arrivait près des hommes, il ne voyait plus rien. Et ce qui en fait un taureau dangereux, parce que ça n'est pas un taureau prévisible. Un bon taureau pour les aficionados et les toreros, c'est celui qui va tout droit. Mais un taureau presbyte, il peut aussi bien donner ses coups de corne à droite qu'à gauche. Et pour les hommes, il est imprévisible, donc il est très dangereux. Et donc Manolette, qui l'a tout de suite vu cela, a demandé à ses hommes de châtier très fortement ce taureau pour l'épuiser très fortement, de manière à ce qu'il ne soit pas dangereux au moment de l'estocade. Et il a tellement été châtié, il a tellement été épuisé par les piques, par les banderies, par les passes, etc., qu'au moment de l'estocade, Manolette a cru que ce taureau ne bougerait plus. Et là, il a fait une faute professionnelle.
Mortelle.
Mortelle, c'est-à-dire que lorsqu'il a donné l'estocade, il n'a pas assez bougé la cape qu'il avait devant lui. Il a laissé la cape devant ses jambes, au lieu de la porter sur un côté pour que le taureau partent sur ce côté. Et en laissant la cape devant ses jambes, lorsqu'il enfonce l'épée, le taureau a eu un réflexe, il est épuisé, mais il a quand même eu ce réflexe de relever la tête, et en relevant la tête, il a, mais sans le vouloir en fait, c'est un mouvement réflexe avec la douleur, il a relevé la tête, il a enfoncé une de ses cornes dans une des jambes de Manolette, il l'a soulevée. Manolette est retombée sur le taureau, ce qui fait qu'il s'est reperforé la jambe, et il est tombé par terre. Et le taureau, d'ailleurs, n'a pas, contrairement à ce qu'on lit souvent, le taureau n'a pas du tout essayé de le réencorner. Le taureau est très vite parti vers la sortie et il est mort vers la sortie.
Il y a une autre chose qui frappe, évidemment, dans cette chanson, c'est la force, la brutalité même de la comparaison avec Dachau, qui pourrait laisser surpris et éventuellement indigné un certain nombre des auditeurs de cette chanson.
Oui, c'est surprenant pour sa date 1979, c'est quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque ou peu. C'est maintenant beaucoup plus commun, notamment aux États-Unis. Je pense à l'auteur américain Charles Patterson, qui a publié récemment un éternel Treblinka. Traduit en français. Et qui compare les traitements portés aux animaux et les traitements qu'on a fait subir aux Juifs lors de la déportation. C'est quelque chose maintenant qui, aux États-Unis, devient tout à fait courant et qui est tout à fait accepté, notamment par la communauté juive.
Donc nous voilà conduits, en tout cas au cœur des passions, Éric Baratet, qui entoure la corrida. Mais avant de montrer que ces passions se sont développées à partir du 18e et surtout du 19e siècle, je voudrais que nous revenions plus loin en arrière, car il y a beaucoup de débats sur les origines de la corrida, beaucoup de mythologie aussi peut-être. Certains remontent jusqu'à la préhistoire et d'autres se contentent d'évoquer la période gréco-romaine.
Alors, cette idée d'une ancienneté de la corrida, c'est une idée qui naît au début du XXe siècle. Et elle naît, en fait, pour répondre aux oppositions qui montent à partir de la fin du XIXe siècle.
On est toujours au cœur de ce débat.
Voilà, on est en plein dans le débat et c'est en fait une réponse à l'opposition, c'est une réponse au débat. Et on va inventer, parce que là c'est une véritable invention, on va inventer des origines antiques, voire des origines préhistoriques à la corrida.
À partir des peintures pariétales en particulier.
Par exemple, lorsqu'on découvre les peintures pariétales, on va faire un rapport entre les deux, alors que même les archéologues à l'époque ne le font pas, ou les préhistoriens ne le font pas. Et puis, on va faire des rapports très proches, très très serrés avec la civilisation crétoise ou avec le culte de Mithra.
Qui est-ce, Mithra ?
Mithra, c'était en fait un culte du soleil, c'est-à-dire que Mithra, qui est le héros, doit tuer un taureau pour revivifier la terre. Et en ayant tué le taureau pour revivifier la terre, il rejoint le soleil, il a sauvé le monde. Finalement, Mithra a sauvé le monde. Ça n'est pas du tout un culte du taureau. Ce culte du Mithra va être transformé par des gens comme Monterland, notamment. Et en fait, Monterland se trompe, il mélange deux cultes. Il mélange le culte de Mithra et le culte de Cybèle. Et dans le culte de Cybèle, effectivement, il y avait des sacrifices de taureaux, et notamment, les pratiquants se mettaient sous le taureau pour pouvoir recevoir le sang du sacrifice.
Cybèle, c'est la déesse de la fécondité rurale et agricole.
Voilà. Et Monterland va un peu amalgamer tout ça dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20, et va lancer, ça va avoir une énorme fortune jusqu'à nos jours, va lancer cette idée, finalement, d'une origine antique de la corrida, et puis aussi d'une origine sacrée de la corrida. C'est-à-dire que la corrida vient d'un véritable culte, vient d'un véritable, une conception sacrée, que l'on va lier, d'ailleurs Monterland le fait lui aussi, il va faire une liaison entre culte de Mithra et le christianisme. Pour lui, il y a une liaison entre les deux, le christianisme populaire, le christianisme espagnol notamment, qu'il découvre dans les années 20, est un christianisme païen pour lui. Et dans ce christianisme païen, dans ce paganisme, il y a une grande partie du culte de Mithra. Et dans son esprit, la corrida, même moderne, peut même resservir à revivifier le christianisme. C'est étonnant, parce qu'il a l'impression que le christianisme est en voie de déclin, c'est le constat qu'il fait. Et finalement, pour régénérer le christianisme, il faut revenir aux origines, y compris à des origines qu'on pourrait dire violentes ou brutales.
Là, on est déjà dans l'entre-deux-guerres, tout un développement d'une réflexion autour de la corrida qui la défend, la promeut, comme étant marqué par des rituels sacrés, ce qui évidemment lui donne une sorte d'aura spécifique. Et écoutez d'ailleurs ce propos de Jean Cocteau qui va un peu dans le même sens. C'est un texte qu'a suscité chez lui, on était à Séville, une corrida au cours de laquelle le matador Damasco Gomez lui avait dédié un taureau. C'est un texte qui a été publié en 1957 chez Grasset, la corrida du 1er mai. Le texte est lu par Luc Ponette dans le cadre des samedis de France Culture le 6 mai 1972.
Le corps en arc de cercle, la poitrine offerte, les escarpins traînant sur le sable, la moulette à basse pareille à une traîne de cour, le torero brave à présent l'ambassadeur avec superbe.
Ho, ho, toro.
La bête, immobile et comme médusée, écoute. Elle regarde l'étrange provocateur. C'est alors que se présente le chef qui charme, qui commande, qui parle et qui parfois s'imagine entendre une réponse. La chose advint à Joselito jusqu'à lui en faire prendre la fuite. La démarche liturgique du prêtre. Il commence la faena, suite de passes où le cercle des arènes va se réduire autour du couple jusqu'à ne plus être qu'un anneau nuptial. La pauvre dupe comprendra le leur et s'y soumettra comme une victime exigée par l'oracle grec. D'où vient qu'un sort iphigéniste ne révolte personne? D'où vient que nos nerfs l'acceptent et que tout un peuple y souscrive? Ça ne pourrait être, si pour employer une expression commune et opportune, la pauvre bête n'en avait plein le dos. Ce ne pourrait être sans un secret qui sacre un crime en rite et le transcende, secret que la course du 1er mai m'a chuchoté à l'oreille. En réalité, il n'y a ni lutte, ni duel entre l'homme et la bête, mais la formation d'un couple isolé par le silence d'une double hypnose, unifié par la mise en œuvre d'un sacrement ancestral sur lequel aucune règle n'a plus de prise.
C'est un très beau texte, celui de Cocteau, parce qu'il résume bien toute cette vision intellectuelle du milieu du XXe siècle. Et il en fait une belle synthèse, c'est-à-dire cette idée de rite ancestral, devenu rite parce qu'ancestral, fondé sur le sacré, fondé sur une véritable religion, fondé sur une pratique extrêmement codifiée, ce qui en réalité n'est pas le cas, puisque la corrida a beaucoup évolué. Et là, on voit bien comment ce discours intellectuel essaye de transcender finalement le spectacle. Et ce discours ensuite va lui-même transformer le spectacle. C'est-à-dire qu'on a un phénomène d'interaction réciproque. On prend la corrida telle qu'elle est, on bâtit un discours avec, et avec ce discours, on va totalement transformer la corrida. Là, il y a quelque chose de tout à fait étonnant.
Cette rencontre est aussi vivante aujourd'hui qu'elle l'était il y a un demi-siècle?
Non. Parce que le monde intellectuel actuel n'a plus cet intérêt pour la corrida. En fait, il y avait eu vraiment une génération, la génération de l'entre-deux-guerres, les Monterland, les Batailles, les Lyris, Picasso, etc., des poètes, ensuite des successeurs comme Cocteau. Ça a été vraiment un grand moment intellectuel, surtout en Espagne et en France. Bon, il y a aussi Hemingway du côté américain, mais qui est quand même très isolé, mais qui n'ont pas eu de successeurs. Ils ont eu des successeurs ensuite au niveau, je dirais, des journalistes ou alors des écrivains un peu de... qui ont fait transiter cette culture intellectuelle vers le monde des aficionados de tous les jours. Je pense à des gens comme Jean Lacouture.
Oui, qui est un grand journaliste et un écrivain remarquable qui s'est passionné pour la tauromachie, de fait, et qui a contribué à sa popularité, un peu comme le journaliste, d'ailleurs, de Libération, qu'il faut saluer, Durand. Alors, puisqu'on est là dans l'ordre de la légende et des représentations plus ou moins imaginaires, peut-être est-il temps, Éric Baratek, que nous considérions ce qu'ont été vraiment les origines de la corrida en Espagne, pour l'essentiel, et au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Que s'est-il passé?
Alors, c'est assez complexe, on ne sait pas tout. Il y a une double origine. Il y a une première origine qui est une origine aristocratique, c'est-à-dire qu'on voit apparaître au Moyen-Âge, et ça continue en gros jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, des espèces de tournois aristocratiques où le combat avec le taureau fait office de succès d'année de tournoi. Si on ne veut pas faire un tournoi, un véritable tournoi entre hommes, on va le faire avec un taureau. Et donc le principe de ce tournoi, c'est que l'aristocrate sur son cheval avec une lance attend la charge du taureau. Et on a là finalement l'ancêtre du picador. Et puis il y a une deuxième origine.
Ça, c'est une arme, avec une armure,
avec le cheval est
très
protégé.
Lourd.
Et le cavalier attend finalement la charge uniquement. Et le but, c'est d'éviter de se faire renverser par la charge du taureau. Ça, c'est la première origine. La deuxième origine, elle est beaucoup plus populaire. Elle naît au XVIIIe siècle dans les abattoirs. Ce sont en fait les garçons des abattoirs qui, avant d'abattre les bovins, ont pris l'habitude de s'amuser avec eux. et c'est-à-dire de les faire courir, de les faire charger, de s'amuser à les éviter, de les esquiver. Puis ensuite, ils ont utilisé des capes, etc. C'est de ce jeu d'abattoir qui est né le jeu de capes et qui est né aussi l'estocade.
Avec un grand succès public populaire.
Grand succès public populaire au moment où l'aristocratie, elle, au XVIIIe siècle, se détache de ces jeux de taureaux. Elle n'en veut plus, on est dans ce qu'on pourrait appeler le processus de civilisation que Norbert Elias a décrit. Elle ne veut plus de cette violence et finalement on abandonne ces combats de taureaux au monde populaire qui va les prendre à son compte et qui va en faire une véritable passion en Espagne. Mais en même temps, il ne faut pas voir ces jeux de taureaux comme proprement espagnols. À l'époque, il y a des jeux de taureaux dans toute l'Europe. On en trouve à Autun, on en trouve en Pologne, on en trouve en Angleterre, etc. Et finalement, la question qu'on pourrait plutôt se poser, c'est pourquoi ces jeux vont se maintenir en Espagne, puis être introduits en France, alors que partout ailleurs, ils disparaissent en gros entre 16e et 19e siècle.
Ce qu'on peut dire, semble-t-il, c'est que la voie n'est définitivement ouverte à la corrida moderne que lorsque trois conditions sont remplies. Je veux dire la professionnalisation des toreros, la pratique taurine devenant un métier à temps plein, la séparation entre les professionnels et le public, et non pas cette sorte de rencontre que l'on trouve d'ailleurs toujours dans un certain nombre de pratiques populaires dans le midi de la France ou en Espagne. Et enfin, troisièmement, la constitution d'élevage de taureaux braves, les plus aptes à entrer dans l'arène pour le plaisir des spectateurs.
Voilà, ce sont les trois conditions qui se mettent en place entre seconde moitié 18e et première moitié 19e. Effectivement, professionnalisation, c'est vrai que pendant très longtemps, le public pouvait participer aux corridas. D'ailleurs, on leur laissait souvent un ou deux taureaux et le public s'amusait avec. On pourrait dire que les lointaines scènes de ce genre, ce sont les courses de pamplune, où on lâche les taureaux dans les rues et le public s'amuse avec. C'est finalement ce qui est resté d'une pratique qui était extrêmement importante fin 18e, début 19e siècle. Il y a aussi effectivement cet enfermement dans les arènes, ce qui a concouru d'ailleurs à parler ensuite de rites antiques, hein, puisque par exemple dans le sud de la France, on va utiliser les arènes antiques pour pouvoir donner ces corridas.
C'est par exemple le cas dans les magnifiques arènes d'Arles.
D'Arles, Nîmes, etc. Oui, alors qu'en fait, c'était des arènes qui étaient occupées, habitées jusqu'au milieu du 19e siècle. Et c'est au milieu du 19e siècle qu'on détruit les maisons qui occupent les gradins, qui occupent même le centre des arènes. Et on va donner en partie ces jeux de taureaux, pas simplement des corridas, mais aussi, par exemple, la course provençale qui se constitue à la même époque.
Il faut constater en même temps que cet essor de la corrida, son institutionnalisation, sa popularité croissante qui la rapproche des formes d'aujourd'hui, voit aussi quasi immédiatement se développer l'opposition. Et là, il y a une sorte de continuité pluriséculaire des arguments, comme le montre, je crois, cette interview de Brigitte Bardot. Oui, Brigitte Bardot, nous savons le combat pour la défense des animaux et bien sûr le refus passionnel de la corrida. Écoutez-la parler en août 90 dans Interactualité.
C'est un des rares spectacles encore de mort qui reste et qui malheureusement attire beaucoup beaucoup de gens et qui est vraiment un spectacle de mort du taureau pour la plupart des cas, mais aussi de temps en temps d'accidents graves comme celui qui vient de se passer. Donc je trouve que ce sont des choses qui ne devraient plus exister.
Et pourtant, il y a de plus en plus de corridas. On a l'impression, au contraire, qu'il y a un engouement pour ce genre de spectacle.
Alors, l'homme est avide de sang, c'est vrai. L'être humain recherche le sang, la mort, l'émotion de ce mystère de la mort. Bon, ce qui a fait partie de la décadence romaine, du reste, quand il y avait des gladiateurs ou quand on donnait les chrétiens à manger aux lions. Mais ce spectacle donc attire les gens et c'est une tradition espagnole. Et en France, tout d'un coup, on sent que le public français est attiré maintenant vers ce genre de choses aussi. Ce qui est dramatique, ça devrait être le contraire.
On dit aussi que s'il y a de plus en plus d'accidents, c'est parce qu'il y a de plus en plus de corridas et que l'esprit de la corrida disparaît un petit peu.
Bon, et tout ça c'est comme la chasse, c'est comme le reste. À l'époque, il y a une cinquantaine d'années ou une centaine d'années, il y avait un code de l'honneur de tous ces sports qui sont des sports de sang ou des sports de mort. Mais maintenant, il n'y en a plus. Par exemple, quand Manolette a été tuée par un taureau, le taureau a eu la vie sauve. Il est parti au pré et on l'a laissé vivre dans son pré jusqu'à sa mort. Or maintenant, c'est devenu une industrie des jeux de la reine. Ça n'est plus du tout artisanal comme c'était à une certaine époque. Et ce code de l'honneur vis-à-vis de l'animal qui existait n'existe plus, puisque le taureau qui a blessé grièvement Julio Robles a été tué à son tour par les autres parce qu'il était un taureau qui devait être tué. À l'époque où ce code de l'honneur vis-à-vis de l'animal existait, les chasseurs avaient aussi respecté certaines lois qu'ils ne respectent plus maintenant vis-à-vis des animaux. Et tout ça devient une industrie du spectacle, de la mort et du sang.
C'est Odile Martin qui interviewait Brigitte Bardot. Alors, Éric Baratet, je vous voyais lever le sourcil en écoutant ce texte, en particulier pour ce qui concernait le taureau qui avait tué Manolete. Il n'a pas du tout survécu.
Non, non, il est mort au moment de la corrida. Et l'idée que développe Brigitte Bardot, qu'il y avait un code d'honneur auparavant, qu'il a disparu, aussi bien pour la corrida que pour la chasse, c'est totalement faux. Hein. Il n'y a jamais eu plus de code d'honneur il y a 50 ans que maintenant au niveau de la corrida. C'est pas ça qui a changé.
Le mythe de l'âge d'or, toujours.
C'est le mythe de l'âge d'or. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle là en 1990, c'est-à-dire, c'est au moment, on pourrait dire, de l'apogée de la corrida en Europe et en France. C'est le moment où il y a le plus de spectacles de tauromachie en nombre de corridas. C'est vraiment l'apogée. Et puis depuis, ça régresse régulièrement. Alors, ces arguments sont intéressants parce que finalement, ce sont des arguments que l'on retrouve dès les oppositions à la corrida, c'est-à-dire dès le XVIe siècle. C'est l'Église notamment qui s'oppose au premier jeu aristocratique. En considérant, alors elle ne prend pas la défense du taureau, en considérant deux choses, c'est que ce sont des jeux dangereux pour les hommes, donc le sang humain peut être versé, et ça c'est condamnable, et puis ce sont des jeux qui sont dangereux pour la morale humaine, et c'est ça qui la gêne le plus, c'est-à-dire qu'on y apprend la violence. Et ça, c'est un fil directeur que l'on va retrouver jusqu'à nos jours parmi les opposants, c'est-à-dire que finalement, la violence apprend la violence, comme le dit Brigitte Bardot, et qu'une nation civilisée, on retrouve ça par exemple chez les hommes des Lumières au XVIIIe siècle, une nation civilisée ne peut pas s'adonner à ces jeux-là. Les philosophes des Lumières sont très méprisants, notamment par exemple pour les Espagnols. Hein, Voltaire, Rousseau, etc. considèrent que la corrida, c'est à peu près la même chose que le jeu des castagnettes et de la guitare. Ça va bien pour les Espagnols, pour des sauvages presque. On les prend pour des sauvages, mais un peuple civilisé n'a rien à voir avec ça.
Dès cette époque de l'Ancien Régime, on trouve les trois arguments. De fait, l'argument économique, les pâturages des taureaux entraveraient le développement des cultures. L'argument moral, que on ne rencontre pas d'ailleurs dans la bouche de Brigitte Bardot en l'occurrence, le mariage des sexes dans les arènes favoriserait le libertinage, horreur. Et puis enfin, naturellement, le troisième argument qui est celui de social, c'est-à-dire que la corrida serait l'opium d'un peuple assoupi. Vous citiez l'Église, au XVIe siècle, on ne peut pas faire l'économie d'une citation de la bulle « De salute gregi dominici », du salut du peuple, où Pie V écrit ceci « Considérant donc que ces spectacles où des taureaux et des bêtes féroces sont excités dans le cirque ou sur la place publique, sont ennemis de la piété et de la charité chrétienne. En voulant abolir ces spectacles sanglants et honteux, de démons plutôt que d'hommes, et pourvoir ainsi au salut des âmes, nous défendons et interdisons par la présente Constitution que nous déclarons valable à perpétuité à tous et à chacun des princes chrétiens, quelle que soit leur dignité, tant ecclésiastique que séculière, de permettre dans leur province des spectacles de ce genre où il y aurait des combats de taureaux et d'autres bêtes féroces. » On renvoie d'ailleurs, encore une fois, à la légende de l'Antiquité où des malheureux chrétiens auraient été livrés aux bêtes, telle Blandine.
Oui, c'est une œuvre du démon, la corrida, ou du moins les jeux de taureaux. Ce que condamne le pape, c'est pas le sort réservé aux taureaux. C'est vraiment le sang, la violence qui déchaîne les passions humaines. C'est-à-dire la corrida ou les jeux taurins sont une occasion finalement de se livrer aux passions et de se laisser emmener par la matière, d'oublier le ciel. Et ça, c'est le point de commun à l'opposition de l'Église jusqu'aux années 20. À partir des années 30-40, l'Église va changer de ton parce qu'elle va justement considérer que la corrida ne déchaîne plus les passions, n'est plus une occasion de péché.
1930-1940.
À partir, oui, on voit les premiers témoignages dans l'entre-deux-guerres. Et jusqu'à voir, alors là, plutôt après la guerre, à partir des années 40-50, des évêques, voire des prêtres, se montrer favorables à la corrida. Parce que c'est un jeu avec la matière, c'est une soumission de la matière, c'est une soumission de la nature, et l'homme a le droit, voire même le devoir, de soumettre et de dominer la nature. Ce qui va entraîner de grosses frictions entre ces gens d'Église et les opposants à la corrida. Parce que jusqu'à peu, les gens d'Église ne s'occupent absolument pas du sort du taureau. Maintenant, ça commence, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, mais c'est très récent.
Le souci des animaux est en fait absent dans la période que nous considérions, la période de l'Ancien Régime. Et cela, c'est un élément qui fait différence, évidemment, avec notre temps.
Y compris chez les opposants. Les opposants ne s'occupent guère des animaux. Il faut attendre finalement la seconde moitié du 19e siècle pour qu'on commence à s'intéresser aux taureaux.
Des cœurs les plus hostiles. Le jour on combattra, le soir on dansera. La nuit on sème la carpanda, la feria, l'aventure est facile.
Aujourd'hui,
c'est la fête à Séville, et dans toute la ville, les amours vont se guériser. Et dans l'ombre sereine, tout autour des arènes, jusqu'au matin se poursuivra, la tendre corrida. Vive Séville!
Vous avez entendu un extrait de l'opérette Andalousie de Raymond Vinci, André Villemette et Francis Lopez, une opérette de 1948 avec Luis Mariano qui chantait La fête à Séville. Alors, 19e siècle, arrêtons-nous sur cette période intéressante où le romantisme porte une découverte de la corrida en France avec un mélange de rejet et d'une fascination romantique pour ce que certains ont appelé l'horriblement beau.
Alors les romantiques sont véritablement passionnés par la corrida. C'est finalement la première génération intellectuelle passionnée par la corrida. Ils annoncent la génération de l'entre-deux-guerres. Mais avec une grande différence, c'est que les romantiques aiment bien la corrida en Espagne. C'est-à-dire qu'ils vont dans un pays qui ne ressemble pas à l'Europe. À l'époque, on pense que lorsqu'on franchit les Pyrénées, on est en Afrique. Les textes de l'époque le disent, c'est plus du tout l'Europe. Et on va dans un autre monde, et la corrida fait partie de cet autre monde.
Alexandre Dumas, Théophile Gautier, ou naturellement Prosper Mérimée.
Mais ils ne sont pas du tout, ce ne sont pas du tout les agents de l'introduction de la corrida en France. Ils vont la voir, ils l'aiment bien en Espagne, ils ne pensent pas du tout à l'introduire en France. Et en fait, ceux qui l'introduisent en France, ce sont les organisateurs de spectacles espagnols qui, finalement, bah, veulent faire de l'argent et se disent que pourquoi pas aller organiser ça là-bas, ça pourrait tout à fait marcher.
Et de fait, c'est le Second Empire qui contribue à l'extension de la corrida dans le sud de la France avec cet événement majeur, de notre point de vue, le mariage de l'empereur avec Eugénie de Montijo.
C'est l'événement déclencheur, puisque normalement, la corrida n'aurait pas dû être introduite en France, puisqu'elle tombe sous le coup de la loi Gramont de 1850, qui punit les mauvais traitements donnés aux animaux domestiques. Or, les taureaux sont des animaux domestiques, donc elle n'aurait pas...
Chose toute nouvelle qui témoigne d'une évolution déjà de la sensibilité collective envers les animaux.
Exactement, et qui fait comprendre l'opposition qui va se développer contre l'introduction de la corrida. Et en fait, Napoléon III fait une exception, le gouvernement Napoléon fait une exception pour la corrida, et c'est le moment où on commence à organiser quelques corridas, mais alors c'est uniquement autour de Bayonne, Biarritz, c'est contingenté là pendant quelques années. Et puis, devant le succès relatif, relatif, c'est pas un énorme succès, mais devant le succès relatif, les impresarios vont se dire « mais pourquoi ne pas en donner ailleurs ?» Et ils n'ont pas du tout, à l'époque, le projet de se contenter au midi de la France, contrairement à ce qu'on pourrait croire en se disant le midi de la France, terre naturelle de la corrida. Non, non. À l'époque, ils veulent donner des corridas dans toute la France.
Autrement Paris,
dit,
Paris
ils
même.
Vont à Paris, il y a des corridas à Lille, à Dunkerque, au Havre, à Lyon, il y en a de partout. Les impresarios essayent. Là, et puis, là où ça prend, ils reviennent. Là où ça ne prend pas, ben, ils ne reviennent pas.
Oui, la corrida à Dunkerque, pour nous, cela fait un peu bizarre.
Et ça dure jusqu'à l'entre-deux-guerres, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et l'idée d'un sud de la France qui serait naturellement dévolu à la corrida ne vient absolument pas à l'esprit des gens à l'époque.
Il faudra attendre la 4e République pour prendre cette loi de 1951 qui autorise la corrida dans le sud de la France, ce qui est effectivement surprenant par rapport à l'idée de l'universalité de la législation.
Oui, alors c'est une exception que l'on fait à la loi Gramont. Ce n'est pas une véritable légalisation de la corrida, c'est qu'on fait exception à la loi Gramont. La loi Gramont ne s'applique pas aux taureaux de corrida.
Alors, il y a peu d'exemples dans notre législation, sauf pour ce qui concerne les motifs sont historiques, l'Alsace-Lorraine. Il y a très peu de lois qui sont spécifique et qui concerne spécifiquement une région où il y a historiquement une pratique. C'est ça que marque la loi.
Alors, cette loi, elle est très intéressante parce qu'elle consacre deux événements importants. Elle consacre d'abord l'échec de l'implantation des corridas dans le nord de la France. Échec de l'implantation, pourquoi ? Parce que les oppositions sont trop fortes. Les oppositions naissent dès les années 1880 avec des gens comme Séverine, Zola, etc. Il y a une très forte opposition qui va durer jusqu'aux années 40-50. Mais il n'empêche qu'en 1949, vous avez encore un article du Monde qui paraît dans le journal Le Monde où le chroniqueur Taurin écrit noir sur blanc qu'il espère bien que les corridas vont s'implanter à Paris. Et donc, en fait, il y a encore cet espoir. Mais ça ne marche pas. Donc, il y a l'échec de l'implantation au Nord. C'est le premier événement. Et le deuxième événement, ben, c'est finalement la réussite de tout un discours visant à dire que la corrida est naturellement une pratique méridionale. Alors ça, c'est quelque chose qui est très à la mode au milieu du XXe siècle, mais qui n'existait pas 50 ans avant. 50 ans avant, vous auriez dit à la majeure partie des gens du Midi, de Provence, des Landes, etc., la corrida est un spectacle naturellement propre à votre région. Ils auraient répondu non. Pour eux, leur spectacle, c'était les courses landaises, les courses provençales, mais pas la corrida.
Revenons, si vous le voulez bien, revenons à cette opposition grandissante de la fin du 19e siècle, avec des personnages comme Caroline Rémy, plus connue sous le nom de Séverine. Et Zola aussi, on a parfois oublié que Zola était très hostile à la corrida. Et puis en Espagne, il y a la génération des fils de 98, c'est-à-dire ceux qui ont été influencés par la défaite de l'Espagne, notamment à Cuba et aux Philippines devant les États-Unis.
Oui, du côté des Espagnols, c'est l'opposition à la corrida s'inscrit dans cette volonté de moderniser l'Espagne, qu'elle ne reste plus au niveau des castagnettes, de la guitare et de la corrida. Il faut que l'Espagne s'européanise et elle doit abandonner ce spectacle qui, pour cette génération-là, donne l'impression d'un archaïsme désuet. Du côté français, c'est autre chose. C'est la résistance face à l'introduction régulière de corrida en France. C'est un peu ce qu'on a vu avec Brigitte Bardot, c'est-à-dire c'est la volonté de s'opposer, de défendre la civilisation, de défendre la protection aussi animale qui se développe à l'époque avec la loi Gramont, contre une vision de barbarie qui arriverait avec cette corrida.
Il y a aussi un aspect des choses que nous n'avons pas encore évoquées, c'est la préoccupation du sort des chevaux, parce que les chevaux, évidemment, sont également des victimes de la corrida à l'époque.
Alors, effectivement, parce que l'opposition, à l'époque, focalise sur les chevaux. Pourquoi ? Parce que les chevaux ne sont pas protégés. Pour les aficionados, le plus intéressant, ce n'est pas, à l'époque, la mort du taureau. Il y a la mort du taureau, mais le plus intéressant, c'est de voir comment le taureau va étriper les chevaux. Et à l'époque, un taureau tue à peu près en moyenne 1 à 2 chevaux. Et il y en a qui on a des textes qui montrent qu'il y en a qui en tuent 10, 15. Et ce sont de véritables héros. Et à la fin, l'estocade du taureau, c'est une obligation, mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Et évidemment, l'éventration des chevaux, ces chevaux sont éventrés, ils perdent leurs entrailles dans l'arène, il y a les entrailles qui traînent, il y a le sang, etc. On les prend, on les ramène à l'intérieur, on leur met de la paille dans les intestins, dans le ventre, on recoud tout ça et on les ramène un petit moment pour qu'ils puissent resservir. C'est quelque chose qui choque énormément l'opinion publique française et notamment les intellectuels français, qui choque aussi par exemple les Anglais qui commencent à beaucoup aller en Espagne. Et c'est là-dessus que l'opposition focalise.
Et cela va durer jusqu'à ce que soit instaurée la pratique du caparaçon.
Exactement. C'est d'ailleurs le gouvernement espagnol qui l'impose en 1928, justement pour éviter une trop forte opposition de la part des touristes, et notamment des touristes anglais, qui sont de plus en plus nombreux, qui sont attirés par les arènes, par les corridas, parce qu'on a l'impression que c'est déjà le folklore espagnol, mais qui sont complètement horrifiés par le sort, le traitement réservé, non pas aux taureaux, mais réservé aux chevaux. Parce que pour les Anglais, évidemment, le cheval, c'est un animal sacré. Bon, le taureau, l'idée que c'est un animal sauvage, violent, une brute à mettre à mort, ça passe, mais pas le cheval.
Cette décision remonte à la dictature de Primo de Rivera.
C'est lui qui l'impose au monde des aficionados, et notamment les aficionados français sont obligés de l'admettre en France. Alors qu'ils sont très très opposés à cette mesure, ils l'appliquent, mais ils sont très opposés parce qu'ils avaient développé tout un discours sur la pureté de la corrida, sur le respect des règles, etc. etc. Et ils ont l'impression d'être finalement pris à contre-pied.
Sur la montée de cette protestation, dès avant 1914, voici un texte qui me paraît significatif. C'est un texte qui s'intitule « La mort du taureau » et qui est dû à la plume de José María de Heredia. Mais ce n'est pas un sonnet, c'est un texte en prose qui a été publié en 1903 et qui est lu ici par Maria Casares le 11 août 1961.
Le matador serein, agile, s'esquive et enfonce l'épée jusqu'à la garde. Le taureau s'immobilise et son mugissement exprime sa douleur, sa rage profonde, son agonie. C'est vainement qu'il lutte contre la mort cruelle. Il veut encore se venger, mais sa force l'abandonne avec le sang chaud qui coule à gros bouillons. Et pris entre la douleur et la colère, il vacille, tombe et mugissant expire. Son cadavre est traîné dans un triomphe barbare. Ses pattes puissantes sont raides, abandonnées, Dans la ville poussière, il fuit, traîné par le cou, alors que sous le joug, peut-être, il était le soutien d'une famille de paysans. Cependant, le peuple, dans un tumulte joyeux, célèbre l'exploit du gladiateur stupide. Atroce spectacle, honte de l'Espagne.
Il y a cette idée, Éric Baratet, à la fin, du peuple qui est entraîné dans ses passions élémentaires.
Ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est l'un des premiers où l'on met vraiment au centre le sort du taureau. Ce qui n'était pas le cas des premiers opposants qui s'intéressaient aux chevaux. Et fin 19e siècle, on voit l'intérêt naître pour le taureau. Et on le voit par exemple en France, par exemple parmi la SPA. La SPA qui au départ ne s'intéressait qu'aux chevaux se met aussi à s'intéresser aux taureaux.
Société protectrice des animaux.
Créée en 1845 et qui va beaucoup lutter aussi dans les années 80-90 contre la corrida.
Ce renversement de l'intérêt est tout à fait topique. Et dans votre beau livre publié récemment, qui s'appelle « Le point de vue animal », vous avez tout un chapitre où vous placez du point de vue du taureau, un chapitre très, très neuf. Vous imaginez toute la somme des douleurs qu'il peut vivre pendant cette brève période entre sa sortie de l'ombre et sa mort dans l'arène.
Oui, parce qu'on ne peut pas comprendre la corrida si on l'analyse, comme on le fait tout le temps, si on ne l'analyse que du côté de l'homme, si on n'en parle que comme d'un rite, d'une messe, d'une domination, etc., etc., en réalité, ce n'est pas ça. Ça, c'est le discours qui est plaqué sur la pratique. Dans la pratique, c'est avant tout un jeu entre guillemets, un combat entre un homme ou des hommes et un taureau. Les hommes eux-mêmes qui sont dans l'arène, qui font ce combat, ils observent de très près l'animal. Ils ont besoin de le connaître pour savoir ce qu'il faut faire. Donc se mettre du côté du taureau, ça permet de comprendre beaucoup mieux d'abord ce qu'il vit lui-même, comment il se comporte, et puis ça permet aussi de comprendre ce que font les hommes de leur côté. Autrement dit, ça permet de mettre l'accent vraiment sur l'interaction entre l'homme et l'animal.
Il me paraît nécessaire à ce point de notre conversation, Éric Baratet, de donner à sentir très concrètement ce qu'est une corrida, et pour ce faire, d'utiliser la radio à l'époque où il n'y avait pas encore la télévision et où un journaliste pouvait évoquer l'événement un peu comme une course sportive, sans image, mais en recréant l'image par sa parole. C'est un extrait de l'émission Le Monde comme il va du 14 octobre 1953.
Le voici en face du taureau, dans l'axe du taureau. Il faut que les deux pattes de devant et les deux pattes de derrière du taureau soient exactement dans le même axe, que le taureau soit bien placé sur le sol. Voici l'épée à la main du torero, qui plonge. Très 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 belle mise à mort, l'épée est à moitié entrée dans le corps et le taureau semble asphyxié. Une très très belle mise à mort, le taureau est encore debout, mais semble très affaibli. Il charge encore la muleta du torero, mais la mise à mort était extrêmement belle et le taureau donne des signes évidents d'asphyxie. Mais il est encore debout. Et voici les péones qui commencent à le faire tourner pour l'étourdir. Mais le taureau est agité de soubresauts et semble vraiment avoir été terriblement touché par le matador qui a vraiment fait cette course avec beaucoup de style, beaucoup de courage et beaucoup de grâce.
Éclairez-nous sur ce que l'on peut savoir de ces souffrances de la bête dans l'arène.
On sait maintenant beaucoup de choses parce qu'il y a eu beaucoup de travaux de vétérinaires, de physiologistes qui ont travaillé depuis une trentaine d'années là-dessus, qui ont fait des examens, etc. Et puis, on connaît aussi bien maintenant l'éthologie bovine, puisque les taureaux de corrida, ce ne sont que des bovins. Ce ne sont pas du tout des animaux sauvages ou des animaux plus dangereux que les autres, contrairement à ce que disent les aficionados. Ce sont des animaux domestiques qui peuvent être dangereux, mis dans certaines conditions évidemment, mais qui n'ont rien de différent génétiquement ou biologiquement par rapport aux autres bovins. Et donc si on croise tous ces travaux-là et ce que disent les aficionados, on arrive à très bien reconstituer le parcours du taureau. C'est un parcours, en fait, qui est évidemment sous le signe du stress. Le stress, il commence avant l'arène, avec des pratiques où l'on prépare l'animal. C'est notamment la pratique de la feitade dont on a parlé avec Manolette, qui est une pratique qui naît à la fin du 19e siècle et qui s'est beaucoup pratiquée au 20e siècle et encore jusqu'à nos jours.
Désaffûter les cornes.
Voilà, on coupe les cornes, on les réduit de longueur et puis on les fait beaucoup moins pointues. Ça a deux intérêts, c'est que l'animal ensuite a mal à ses cornes, c'est une opération extrêmement douloureuse, donc il a très mal à ses cornes, donc il a beaucoup moins le réflexe de s'en servir, donc il devient moins dangereux. Et puis comme ses cornes ont été raccourcies, il perd le sens de la distance et il a beaucoup de mal à savoir comment il faut frapper. Donc ça le rend encore beaucoup moins dangereux. Et puis ensuite, il y a le stress évidemment de l'attente, c'est-à-dire que ces bovins qui sont mis dans les couloirs d'attente, ils sentent, ils ont un odorat extrêmement développé et ils sentent très bien les odeurs de stress, notamment des taureaux qui sont partis avant eux, qui reviennent à l'état de cadavre, qui dégagent ce qu'on appelle des phéromones. Et les taureaux, comme beaucoup d'animaux, sentent très bien ces phéromones de stress, d'angoisse. Et évidemment, ça les met eux-mêmes dans une situation d'angoisse.
Ou bien les blessures qu'on leur impose.
Et il y a la sortie. Déjà, lorsqu'ils sortent, ils se retrouvent dans un espace fermé. Il faut penser au bruit, aux cris des gens. Ils se retrouvent totalement cernés, encerclés. Et là, il y a évidemment tout de suite le sentiment du danger. Alors, il y a deux réactions de la part des taureaux. Il y a celui qui est un peu plus agressif, qui va foncer pour écarter le danger. Donc, il va foncer contre les hommes, voire même, on a des taureaux qui peuvent même sauter dans les gradins. Et ce n'est pas qu'ils sont plus dangereux que les autres, c'est qu'en fait, leur réaction première pour éviter le danger, c'est faire fuir le danger. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, vont eux-mêmes se replier. On a beaucoup de taureaux qui se replient. Alors, ils se replient de deux manières. Soit ils vont se mettre vers les portes, mais les portes sont fermées. Alors, et si on laissait en corrida, si on laissait les portes ouvertes, vous auriez 80% des taureaux qui partiraient en courant. Mais les portes sont fermées, donc ils restent là. Ou alors, ils se mettent au centre du terrain. Parce que le centre du terrain, c'est l'endroit où ils sont le plus éloignés de tout le monde, c'est-à-dire éloignés du public, éloignés des chevaux, éloignés des toreros.
Et puis les blessures.
Et après, il y a les blessures, effectivement. Alors que là, on mesure tout à fait bien, puisqu'on a eu beaucoup d'études de vétérinaires qui ont mesuré, par exemple, le nombre de centimètres de fer enfoncé. Un taureau reçoit à peu près 1,80 m à 2 m de longueur de lame sur toute la corrida. Et ça entraîne, et elles sont portées évidemment dans des endroits qui sont extrêmement douloureux pour eux. Et d'autant plus qu'on sait très bien maintenant que ces taureaux souffrent, puisque le système physiologique des taureaux est organisé de la même manière que le système physiologique humain. Donc on ne peut pas dire qu'ils souffrent moins, qu'ils ont une douleur moins forte, etc. Ce qui a été longtemps un argument des aficionados. Vous avez Hemingway, par exemple, qui dit que le taureau estoqué souffre moins qu'un homme qui se fait une entorse à la cheville.
Je suis content qu'on ait, si je puis dire, donné la parole, grâce à vous, Éric Baratet, au taureau. Redonnons-la, si vous voulez bien, au matador, au torero. Voilà une interview de Manolo Vasquez dans les matinées de France Culture, le 24 janvier 1989. Une interview en espagnol, mais rassurez-vous, on va traduire.
Bueno, el toro nunca se le debe de perder de vista.
Eh bien, le taureau,
eso es una frase,
le perdre de vue.
Tópica, pero real.
C'est peut-être un lieu commun. Mais c'est vrai.
Le taureau, siempre hay que estar pendiente de él.
Il faut toujours être suspendu.
Siempre se dice, no le pierda la vista al toro.
On dit toujours, ne perdez pas le regard du taureau.
La vista del toro, los ojos del toro son
c'est
los que,
le regard
en cierta
du taureau.
Medida,
c'est les yeux du taureau, modo, ce qui, d'une certaine manière, disent, dicte ce qu'il faut faire.
En
il faut
vista lo que
percevoir dans son regard
hacer o hacer.
Ce qu'il
si
prétend faire,
muleta,
ce qu'il va faire.
Si está fijo,
s'il fixe
mira
la muleta,
del torero,
s'il fixe le corps
si
du torero,
se distrae,
s'il se distrait.
La vista del toro es como cuando,
le regard du taureau,
como cuando dos personas
c'est comme lorsque
entablan una
deux personnes entament une conversation.
Y con la vista nos explicamos o nos contestamos,
on s'explique,
o nos hablamos.
Ou on se répond, ou on se parle avec le regard.
Est-ce qu'il s'agit d'une conversation ou est-ce qu'il s'agit d'un, d'un corps à corps, d'un combat ou même d'un corps à corps amoureux avec le taureau? Où est-ce qu'il y a de tout cela dans cette conversation?
Bueno, yo trato de un acto amoroso.
Bon, je parle d'un acte d'amour, pas d'un combat.
Aparentemente,
bien qu'apparemment,
que el toreo
il puisse paraître que la course est
una lucha, lucha contra un animal.
Une lutte contre une bête.
Contra un animal que tiene contre su propia manera de ser
une
tiene
bête
su
qui
tiempo.
A sa propre manière d'être et son propre temps.
Yo pongo por delante de vencer o de matar al toro,
plutôt que de vaincre ou tuer le taureau, je donne la priorité à le faire artistiquement. C'est pourquoi, pour moi, c'est un acte d'amour.
On est frappé, je trouve, Éric Baratet, par la concomitance dans ce propos entre une expérience très, très concrète et une sorte d'intellectualisation de l'analyse qui paraît empruntée, en fait, plutôt aux écrivains et aux commentateurs.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un entretien très intéressant parce qu'elle montre bien comment ce torero jouxte deux discours différents. Il y a le discours de la pratique, le sien, c'est-à-dire qu'il dit bien qu'il faut faire attention au taureau, d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir le point de vue du taureau pour bien comprendre ce qui se passe dans une corrida, parce que le torero, c'est ce qu'il fait, il a le point de vue du taureau sans arrêt à l'esprit pour pouvoir l'éviter. Et en même temps, on a ce discours évidemment sur l'amour, la danse, etc., qui n'est pas un discours qui a été inventé par les toreros, c'est un discours inventé par les gens comme Monterland, Bataille, Léris, Cocteau, Picasso, et c'est ce discours-là qui a fait beaucoup pour le succès de la corrida au XXe siècle, qui a permis en grande partie aussi de la légaliser en France. Et évidemment, ces toreros ont beaucoup repris à leur compte tout ce discours-là, y compris aussi tout le discours sur la mort, le danger pour les toreros, etc., qui n'existait pas auparavant, puisque pour un torero jusqu'au milieu du XXe siècle, mourir à la corrida, c'était une faute professionnelle. Alors que après, dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est devenu presque un acte héroïque. Hein, vous aviez El Cordobés, par exemple, la biographie d'El Cordobés, qui était intitulée « Où tu porteras mon deuil », qui mettait l'accent sur la mort de l'homme, qui a beaucoup officié dans les années 60, et c'est à l'époque où on parlait le plus de la mort des toreros, et on mettait ça en avant pour justifier la corrida, alors qu'en fait, c'est l'époque où il y a eu le moins de morts du côté des hommes, parce qu'on pratiquait une corrida relativement facile. Et au XXe siècle, il y a plus de morts en Formule 1 qu'en corrida. Et on ne peut pas dire que la Formule 1 était inventée pour tuer les pilotes. Hein. Donc, non, c'est pas. Les toreros le disent eux-mêmes. La finalité de la corrida, c'est pas de mourir. Hein. Ça, c'est un discours intellectuel, mais pour eux, non. La finalité, c'est donner un spectacle. La beauté, la fête, etc., tout à fait. Mais cette idée de la mort de l'homme n'est pas du tout dans leur registre à eux.
Eh bien, merci d'être venu à ce micro. Vous avez publié un livre qui s'appelle, tout récemment, en 2012 au Seuil, un livre qui s'appelle « Le point de vue animal, une autre version de l'histoire ». J'y faisais tout à l'heure référence. Hommage aussi au livre d'Elisabeth Ardouin-Fugier, « Histoire de la corrida en Europe ». Le point de vue est large, du XVIIIe siècle au XXIe siècle, paru aux éditions Connaissance et Savoir en 2005. Et avec le même auteur, vous avez proposé un « Que sais-je » sur la corrida en 1995, malheureusement épuisé, mais on va le rééditer après cette émission, je n'en doute pas.
Espérons. Il se trouve en ligne, les auditeurs peuvent le trouver en ligne en tapant Éric Baratet, Elisabeth Adouin-Fugier, la corrida.
Samedi prochain, je n'ai pas besoin d'insister sur l'actualité, nous parlerons des députés, puisque nous en avons maintenant un grand nombre de nouveaux et ils seront tous à l'écoute. Je n'en doute pas, avec Jean Garrigue, être député sous la Troisième République. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Jeanne Guéroux, Nathalie Lempereur, Cléo Ragé, notre chère stagiaire, et réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Éric Villefin, à la discothèque Aude Boisard, et pour les archivinats, Véronique Jolivet. Et dans quelques instants, comme chaque samedi, vous allez retrouver Dominique Rousset pour l'économie en question.